Voilà, je vous propose de partager un texte dans le livre des Nombres, verset 21, Nombres chapitre 21 plutôt, à partir du verset 10. Nombres 21, à partir du verset 10. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Ijéabarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaheb en Suffa, et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Amen. Voilà pour ce texte du livre des Nombres qui raconte la fin du parcours du peuple d'Israël. Un parcours long de 40 ans, et là c'est un parcours qui touche à sa fin. Le peuple s'approche du pays de Canaan, de la terre promise. Et cette période reste une période difficile, puisque au travers du texte qu'on vient de partager, on voit que le peuple erre de lieu en lieu, de campement en campement. Et depuis pas mal de temps, en fait, le peuple enchaîne les déconvenues, les épreuves, les défaites, les déroutes. Et ces événements sont la conséquence du manque d'obéissance du peuple vis-à-vis de Dieu, de sa rébellion même vis-à-vis de Dieu. Et nous sommes dans une situation, au moment où nous lisons ce texte, nous sommes dans une situation où le peuple ne sait plus trop où aller. Le peuple est désorienté et il semble avancer un peu de façon incertaine. Il va de lieu en lieu jusqu'à arriver jusqu'à un torrent. Et donc, nous allons parler ce soir de ce qui se passe avant ce torrent et de ce qui se passe après, puisque nous allons voir que la situation, la façon dont le peuple communie avec Dieu, avec l'Éternel, est très différente avant cette étape et après cette étape. Le tournant, il représente ici le repos dans ce passage. C'est un temps qui sera mis à part pour le peuple d'Israël. Et à travers ce temps de repos, Dieu va régénérer le peuple d'Israël. Et ce temps de repos va marquer une rupture d'un peuple qui venait de passer une situation d'échec à un peuple qui va passer à une situation de réussite. Donc, dans le passage qu'on vient de lire, je vais reprendre les lieux qui sont visités par le peuple. Il est question d'Oboth, il est question d'Ijéabarim, il est question de Zéred et Béer. Donc, il faut savoir qu'au moment où le peuple arrive là et s'approche de la région de Moab, le peuple est fatigué, le peuple est assoiffé, le peuple est lassé après presque 40 ans dans le désert. Et le peuple a vécu des épreuves, notamment avec la mort d'Aaron. Et le peuple erre en arrivant près de Moab. Alors il passe par Oboth, qui signifie esprit ou qui évoque les morts. Ijéabarim, qui signifie ruine d'Abarim dans le désert. Le Zéred, c'est une vallée et ça signifie ruisseau de l'osier. Arnon, c'est un torrent et le mot Arnon signifie bruit ou murmure. Et Béer, donc c'est la signification, c'est un puits, une source ou une oasis. Toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 33, à partir du verset 41, le trajet du peuple d'Israël à partir de la mort d'Aaron est de nouveau évoqué avec des étapes supplémentaires par rapport à celles qu'on vient de lire. Donc je lis dans Nombre 33 au verset 41. Ils partirent du mont Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Pounon. Ils partirent de Pounon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijéabarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijéabarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partèrent d'Almon-Diblataïm et campèrent sur les montagnes d'Abarim devant Nebo. Donc on voit que il y a encore plus d'étapes. Ce passage de Nombre 33 nous donne encore plus de détails sur le trajet du peuple d'Israël. Donc, ils sont partis de Hor, là où Aaron est mort. Et donc, ils sont passés tout d'abord par Tsalmona, ce qui signifie ombragé. Donc, ils ont campé dans cet endroit ombragé. Alors, dans la Bible, on le sait, hein, donc, que ce soit les prénoms ou les endroits, ou que ce soit les sites géographiques, ils ont un nom qui est donné en rapport avec leur particularité. Si c'est une personne, peut-être son caractère, sa façon d'être, ou une anecdote concernant sa vie. Et quand c'est un lieu, c'est en rapport avec les particularités du lieu. Donc, ici, Tsalmona, c'est un endroit ombragé. Pounon signifie obscurité ou ténèbres. Alors, ils campent dans des endroits en rapport avec l'ombre, en rapport avec l'obscurité, les ténèbres. Obot, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui évoque les morts. Jabarim, c'est les ruines. Dibon, c'est le trop-plein, les larmes. Et Almondiblataim, c'est un nom très particulier aussi, ça signifie dissimulation de deux gâteaux de figues. Donc ça doit faire appel à une anecdote très précise où une personne a été volée de deux gâteaux de figues. Mais ça reste une histoire de dissimulation ou de vol. Donc le peuple va de campement en campement, et jusqu'ici, les endroits visités ne sont pas très attrayants. Si on vous dit partons en vacances à Pounon, obscurité ou ténèbres, je pense qu'on va plutôt chercher à aller vers la lumière que vers les obscurités ou les ténèbres. Mais enfin, là, c'est la réalité du peuple à ce moment-là. Ils vont d'étape en étape, et chaque étape paraît plus compliquée que la précédente. Chaque étape paraît plus sombre que la précédente. Alors, il est intéressant de se rappeler pourquoi le peuple a pris cette route. Pourquoi le peuple, à un moment donné, qui partait du désert et qui allait vers le pays de Canaan, pourquoi le peuple a pris cette route qui semble être une route de détour et de visite d'endroits pas très fréquentables. Donc, il faut revenir un petit peu en arrière dans le livre des Nombres, chapitre 20, à partir du verset 17. Et l'intention du peuple d'Israël, au départ, c'était bien de prendre le chemin le plus court. Et pour cela, il fallait passer par le territoire d'Édom. Le territoire d'Édom, c'est le fruit des descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et donc, quand le peuple d'Israël s'est présenté à l'entrée du territoire d'Édom, voici ce qui s'est passé. Donc, le peuple d'Israël se retrouve face à Édom et lui dit, Nombre 20, 17, « Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous en écarter à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, mes troupeaux et moi, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, rien d'autre. » Édom répondit, « Tu ne passeras pas. » Et il sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et puissamment armé. Ainsi, Édom refusa d'accorder à Israël l'autorisation de passer par son territoire, et Israël se détourna de lui. Israël prit donc la décision, devant la menace d'Édom, de changer de direction et de prendre une autre route. Donc ils vont contourner la mer Morte en passant vers l'est, ce qui va rallonger le trajet et ce qui va les amener à passer donc par les territoires qu'on a évoqués tout à l'heure. Cet épisode de la traversée d'Édom, qui ne se fera pas du coup, elle survient après d'autres épisodes. Je citais la mort d'Aaron qui s'est produite juste avant, et avant ça, l'épisode des eaux de Mériba, où le peuple, là aussi, va être décevant vis-à-vis de Dieu. Le peuple va être dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et Moïse et Aaron, qui devaient accomplir la parole de Dieu, seront punis parce qu'ils n'obéiront pas, et Dieu sera sévère avec eux. Donc on est vraiment dans un enchaînement là de situations toutes plus compliquées les unes que les autres, parce que le peuple est rebelle et parce que le peuple a refusé d'obéir à Dieu. Mais Dieu connaît toutes choses. Et on voit que dans ce périple, en fait, il y a deux parties. La première partie qui est la traversée de tous ces endroits sombres qu'on a cités. Et puis il y a une deuxième partie qu'on va évoquer, qui est le campement près des torrents, du Zéred, de l'Arnon. Et ensuite, l'arrivée à Béer, qui, je le disais tout à l'heure, Béer est un puits, une oasis. C'est là où Dieu veut donner de l'eau au peuple. Donc voilà pour ce qui se passait avant les torrents. On va voir maintenant ce qui se passe après les torrents. Et on va lire toujours dans Nombre, chapitre 21, à partir du verset 23. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays. Donc, première situation, donc le peuple est passé par les torrents, passé par Béer. Il avance vers le pays de Canaan. Il rencontre un premier territoire où il faut passer. Il est dit que si on n'accorde point le passage, comme Édom avait refusé le passage, si on refuse le passage, et donc Israël combat et Israël s'empare du pays. Un petit peu plus loin dans Nombre 21, verset 33, on est dans la continuité. Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréhi. Et un peu plus loin, au verset 35, et ils le battirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laissant échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Donc ces versets racontent les premières victoires du peuple d'Israël alors qu'il s'approche de Canaan. D'abord une victoire sur Sion, qui est le roi. Sion, c'est le roi des Amoréens. Et une deuxième victoire sur Og, qui est le roi de Bassan. On est dans une situation qui nous rappelle les circonstances qui s'étaient produites face à Édom. On est exactement dans la même configuration. C'est le même peuple, c'est la même situation. Le peuple veut passer sur un territoire. À Édom, le passage est refusé. L'armée d'Édom arrive, elle est menaçante. Et le peuple d'Israël préfère se détourner. Ici, on est face à la même situation. Le roi des Amoréens et le roi de Bassan, tous les deux, refusent le passage à Israël. Et ils appellent leur peuple, ils appellent leur armée pour intimider Israël. Mais quelque chose a changé, puisqu'Israël décide non pas de fuir comme à Édom, mais Israël va faire face, Israël va combattre, et Israël va remporter la victoire. Pourquoi ? La parole ne le dit pas. La parole ne dit pas explicitement ce qui a changé, et ce qui fait qu'à ce moment-là, le peuple a choisi de combattre et a remporté la victoire. Mais si on regarde un petit peu en arrière, on va voir qu'il y a des éléments qui nous expliquent pourquoi le peuple, à un moment donné, a changé d'attitude, pourquoi le peuple a changé de dimension. Alors tout d'abord, on peut, si on revient sur l'étape d'Édom, on revient sur le verset 21, il est dit « Israël se détourna de lui », en parlant du peuple d'Édom, « se détourna ». Le verbe se détourner, donc c'est contourner. Quelque part, c'est partir, c'est fuir, c'est éviter donc le combat. Alors, j'ai regardé un petit peu dans le détail, et je crois que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois vraiment que Dieu parle dans le détail. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu doit être méditée, la parole de Dieu doit être réfléchie. On doit s'imprégner de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu nous parle, mais vraiment dans les détails. Le verbe détourner en hébreu, c'est nata, N-A-T-A-H. Ça signifie incliner, courber, fléchir. Donc il y a bien cette notion face à Édom d'un peuple d'Israël qui courbe les chines. Le peuple d'Israël, quelque part, fuit et accepte la supériorité d'Édom. Donc c'est le verbe nata. Dans Nombre 21 au verset 24, donc là on est face à Sion. Israël le frappa du tranchant de l'épée. Là, c'est le verbe frapper. Et le verbe frapper en hébreu, c'est naka, N-A-K-A-H. Donc, on a deux mots qui sont quasiment identiques, N-A-T-A-H et N-A-K-A-H. Il y a une petite lettre d'écart, mais qui va faire une grande différence. Dans Nombre 21-35, face au roi de Bassan, et ils le battirent lui, aussi, lui et ses fils. Et c'est encore le verbe naka qui est employé. Et j'y vois, moi, dans ce point de détail, un message aussi pour nous, c'est-à-dire que en changeant des choses dans nos vies, il y a des choses qui doivent être changées dans notre attitude. Parfois, ça peut paraître du détail, mais pour Dieu, ça n'en est pas. Le temps qu'on consacre à la parole de Dieu, le temps qu'on consacre dans la prière, le temps qu'on consacre à la communion avec Dieu, c'est pas un détail, c'est important, et ça fait une grande différence à l'arrivée. Alors j'ai noté qu'entre Édom et le territoire des Amoréens, entre la défaite et la victoire, il y avait trois expériences significatives qui peuvent expliquer le changement d'attitude du peuple, qui peuvent expliquer comment on est passé de la fuite au combat, comment on est passé de la soumission à l'autorité, comment on est passé de la défaite à la victoire. La première expérience, c'est dans Nombre, chapitre 21, verset 2, Le peuple d'Israël est attaqué par un peuple cananéen qui vient d'Arad. Et ce peuple cananéen donc, s'attaque à Israël. Il est dit que, premièrement, le peuple d'Arad va remporter une victoire sur Israël. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le peuple donc fait un vœu et dit « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » Dévouer par interdit, c'est une expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament, notamment dans la conquête de Canaan. Et Dieu voulait que le peuple conquiert complètement le territoire, qu'il ne laisse pas des peuples étrangers parmi lui, qu'il ne laisse pas des cultes étrangers parmi dans le territoire. Et donc, très souvent, Dieu demandait à ce que les villes soient dévouées par interdit. Ça voulait dire qu'elles soient détruites totalement. C'est-à-dire qu'on ne laisse rien suite au combat, qu'on ne laisse rien qui puisse rappeler l'ancienne religion, les anciennes pratiques, les anciennes coutumes. Et donc, c'était un commandement de Dieu. Et là, ici, le peuple d'Israël fait la promesse en disant « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » Et un petit peu plus loin, donc au verset 3, « L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. » Donc le peuple d'Israël, là, fait une expérience fondamentale. Au travers de son obéissance au commandement de Dieu, le peuple va expérimenter la bénédiction de l'Éternel. Obéissance, bénédiction. C'était un peuple très rebelle, c'était un peuple très souvent amer, le peuple d'Israël, pendant la traversée du désert. Il avait besoin de faire ce genre d'expérience. Deuxième expérience, dans Nombre 21, à partir du verset 4, c'est l'épisode du serpent d'airain. Donc après la mort d'Aaron, le peuple dans le désert parle contre Dieu, parle contre Moïse. Il va même y avoir des propos qui seront outrageants envers Dieu, puisque Dieu avait pourvu aux besoins du peuple avec la manne dans le désert. Et à propos de la manne, le peuple va dire que c'est une nourriture misérable. Donc on voit que le peuple est vraiment tombé dans un état lamentable et n'a plus de reconnaissance pour la bénédiction et la providence de Dieu. Et donc Dieu va punir le peuple par l'envoi de serpents brûlants. Et il est dit qu'il y aura beaucoup de morts à ce moment-là. Et dans Nombre 21 au verset 7, le peuple va se repentir. Il est dit, Nombre 21 verset 7, le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. Et Moïse, à la demande de Dieu, donc va fabriquer un serpent d'airain, en bronze. Et ce serpent d'airain va être mis au bout d'une perche, il va être élevé. Et donc, il est dit que ceux qui étaient mordus par les serpents regardaient le serpent d'airain. Et donc, ils étaient guéris, ils étaient sauvés. Donc, le serpent d'airain placé sur la perche, c'est le symbole de la victoire. Donc, le serpent qui était l'ennemi, qui était la cause de beaucoup de morts, en fait, il est vaincu, il est mis sur une perche. Et Dieu va sauver, à travers ce serpent d'airain, tous ceux qui vont regarder. Et là, il va y avoir une expérience de la part du peuple qui va expérimenter la bonté de Dieu. Mais Dieu va guérir, pas de façon, entre guillemets, magique, mais Dieu va bénir à travers une action individuelle, parce qu'il fallait regarder le serpent. Dieu pourvoit, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu sauve, mais nous avons notre part. Et notre part, c'est la foi. Et regarder le serpent, c'était un acte de foi. Chacun devait réaliser cet acte de foi, devait dire, oui, en regardant ce serpent, je reconnais la souveraineté de l'Éternel, je reconnais sa puissance, et au travers de ce regard, je sais que Dieu va me sauver. Et ce serpent d'airain, il annonce aussi pour nous la mort expiatoire de Jésus, élevé sur la croix. Alors que Jésus a donné sa vie pour nous tous, lui aussi, il était pendu sur ce bois, et c'est bien aujourd'hui vers ce bois que nous devons tourner nos regards, nous aussi, pour recevoir les bénédictions. Donc cette deuxième expérience réalisée par le peuple, c'est l'expérience du salut. Donc plusieurs étaient sauvés, tous étaient sauvés d'ailleurs, ceux qui étaient mordus étaient sauvés par leur foi, après avoir fait preuve de repentance. Ce qui est intéressant aussi, et je crois qu'il y a aussi une expérience pour le peuple, c'est que l'intercession de Moïse a été déterminante. Le peuple s'est adressé à Moïse, et il est dit que Moïse pria pour le peuple. Et c'est après cette prière que le serpent d'airain a été fait et que plusieurs ont été sauvés. Donc, deuxième expérience. Troisième expérience, c'est le torrent de l'Arnon. Donc, le torrent de l'Arnon devient un campement. On a vu qu'il y a eu plusieurs campements dans des endroits sordides. Et là, il y a un campement qui est différent des autres. C'est un campement auprès d'un torrent. Et ce campement va être un campement qui va accorder un repos au peuple d'Israël. Déjà, le peuple ne murmurait plus. On n'entend plus, quand on lit ces passages à l'approche du torrent, on n'entend plus le peuple murmurer. Et ça fait déjà une grande différence. Et donc, sur ce premier torrent, le torrent de l'Arnon, il est dit que c'est le torrent qui coule dans le désert. Ça, c'est, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu dans ton désert, dans les déserts que nous traversons, quand c'est sec, quand c'est aride, quand c'est difficile, quand il n'y a plus rien autour de nous. Il n'y a que Dieu qui peut mettre un torrent, il n'y a que Dieu qui peut faire couler un torrent là au milieu, pour nous rafraîchir, pour nous bénir, pour nous ressourcer, pour nous accorder un repos. Et donc, dans ce premier torrent, le peuple va camper. Et au-delà de ce point de campement, il y aura un repos supplémentaire. Ce repos supplémentaire, c'est BR, qui signifie le puits, la source. Et il est dit donc que c'est à cet endroit que Dieu avait dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Donc une troisième expérience qui est l'expérience du repos, la réfection du corps, la réfection de l'âme, l'expérience tout simplement de la grâce de Dieu. Et le repos, c'est important. Nous qui approchons là, des vacances d'été, on sait que le repos, c'est important. À certains moments, il faut se reposer. On ne peut pas être tout le temps dans l'action, dans l'activité, dans le travail. Le repos est important. Mais ici, on parle du repos de Dieu. Ce n'est pas les vacances. Le repos de Dieu, c'est autre chose. C'est bien plus que cela. Se retrouver dans la présence de Dieu, c'est là qu'on fait l'expérience de la bénédiction qui est celle que l'on reçoit quand on prend le temps de se reposer près de Dieu. Prendre le temps pour Dieu. Méditer sa parole, passer du temps avec lui, prier, l'adorer, lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes attachés à ses bénédictions. C'est en ce moment-là que le Seigneur apporte un repos. D'ailleurs, Dieu lui-même avait instauré, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même avait instauré une année, c'est appelé une année sabbatique, c'est une expression qui existe encore aujourd'hui, une année sabbatique. On prenait une année de repos, on mettait une année entre parenthèses, et pendant cette année, on ne travaillait plus les terres, on ne faisait plus pousser de culture. C'était au travers de ça, c'était une volonté de laisser la terre se reposer pour que quand on reprenait une année plus tard la culture, la terre était productive. Pendant les 6 années qui suivaient, il y avait des récoltes qui étaient productives. Et donc c'était une façon aussi d'accorder un repos à la terre pour qu'elle se régénère, pour qu'elle reprenne des forces et qu'elle puisse ensuite donner du fruit. Donc il y a un double repos qui est accordé, ici c'est le torrent puis BR. Pour nous aussi, il y a un double repos qui est accordé dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il y a un double repos qui est accordé, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pour nous aussi, cette image de torrent, elle est valable. Très souvent, dans notre vie, on est perdu, on ne sait pas trop où aller. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent survenir et qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop quelle est la bonne décision à prendre. Mais il faut se rappeler qu'il y a un torrent qui coule dans le désert. C'est Jésus qui est là pour nous. C'est Jésus qui est près de nous. Il veut partager son joug avec nous. Il veut nous accorder, nous aussi, ce double repos. Et au travers de cette étape qui est essentielle, il va nous restaurer. Et on a vu qu'avant le torrent, le peuple était perdu, le peuple était errant. Après le torrent, le peuple est victorieux. Donc cette étape de repos, ce n'est pas juste être dans la présence de Dieu, c'est déjà énorme, mais c'est dans cette étape-là aussi que Dieu nous construit pour ce qui va arriver après, c'est-à-dire remporter des victoires avec lui. Amen. On va un petit peu plus loin dans Nombre, chapitre 21, à partir du verset 19, et on va voir ce qui va se passer après BR, après le puits, après l'oasis. Nombre 21, verset 19. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab. Et là, on est passé des campements qui étaient dans l'ombre, qui étaient dans le désert, dans le désespoir, à Matana qui signifie don de l'Éternel, à Nahaliel qui signifie torrent de Dieu, et à Bamoth qui signifie haut lieu. C'est un programme complètement différent. Là, pour le coup, moi, je veux bien aller en vacances. Je veux bien faire le périple Matanan à Liel Bamoth. Ils marchaient de nouveau avec Dieu, ils avançaient donc vers la victoire et les promesses de Dieu, et derrière donc ils vont remporter deux victoires. La parole de Dieu nous dit que les derniers seront les premiers. Là, on avait un peuple qui faisait partie des derniers. C'était défaite sur défaite, sur défaite, sur défaite, sur humiliation, sur difficulté, sur épreuve. Enfin, ils sont passés par toutes les étapes. Ils se sont plaints de Dieu. Est-ce que nous aurions fait mieux que eux? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils faisaient partie des derniers. Et là, ils vont passer le torrent, ils vont passer BR, et ils vont passer des derniers aux premiers. Amen. Voilà. Mais c'est pareil pour nous. On fait avec des chagrins, on fait avec des difficultés, on fait avec des épreuves. Mais au-delà de ces étapes-là, au-delà de ces épreuves, il y a un ruisseau, il y a un torrent, il y a un puits, il y a une oasis. Et derrière, Dieu, après cette phase de repos, Dieu va nous restaurer, Dieu va nous amener vers un avenir victorieux. C'est juste une question de grâce, en fait. C'est juste une question de grâce. C'est juste une question de foi. Les expériences qu'a vécu le peuple, c'est une question de grâce, c'est une question de foi. C'est une question de persévérance, c'est une question de consécration et c'est une question d'obéissance. Tout ce qu'on a lu, c'est une question d'obéissance. À un moment donné, ils ont obéi à Dieu. Amen. Voilà. Alors que Dieu nous donne la direction dans nos vies, que Dieu nous montre ce chemin qui va vers le torrent, même si nous sommes dans des difficultés, même si nous sommes dans des problèmes, gardons confiance en Dieu. Il est là, on l'a chanté, il est fidèle, Jésus est fidèle, il est près de nous, il nous conduit, faisons-lui confiance. Après les difficultés viendra le repos. Cherchons ce repos. Après le repos viendra la victoire. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, oui, c'est vrai. Nous aussi, nous expérimentons ces difficultés qui sont communes dans nos vies, Seigneur, c'est vrai. Mais nous avons un espoir. Et cet espoir, c'est toi, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Jésus. Merci de tes bontés, oui, qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Nous ne voulons pas ruminer, nous ne voulons pas grincer des dents, nous ne voulons pas nous plaindre, mais non, au contraire, nous voulons regarder à toi. Quand nous nous levons le matin, la première pensée que nous voulons avoir, c'est « elle doit aller vers toi ». Nous voulons qu'elle aille vers toi, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tes grâces, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ton amour, Seigneur, parce que c'est vrai, tout ce que nous avons, nous te le devons. Nous ne voulons pas dire que regretter de manger de la manne tous les jours, Seigneur. Nous voulons nous satisfaire de ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons nous satisfaire de tes bontés. Nous voulons nous satisfaire de ta grâce, Seigneur. Qu'elle remplisse nos vies, qu'elle remplisse nos cœurs en abondance, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs ici ce soir, Seigneur, et ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, abondamment, Seigneur. Apporte-leur les bénédictions dont ils ont besoin dans leur vie, Seigneur. Réconforte-les, amène-les vers ce repos, Seigneur. Éveille en eux le besoin, l'envie de s'approcher de toi, de vivre ce repos, Seigneur, que toi seul peux donner, cette paix que toi seul peux donner, Seigneur. Et nous savons que par ce repos, tu vas nous reconstruire. Par ce repos, tu vas nous restaurer, Seigneur. Parce que tu as prévu de grandes choses pour nous, Seigneur. Parce que tu as prévu des victoires pour nous, Seigneur. Nous avons des victoires à remporter dans nos vies, Seigneur. Et nous le ferons avec toi et par toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Seigneur Jésus, te rendons grâce. Amen.